Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Entre 12h30 et 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Bonjour à tous, bonjour à Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour
l'info
à tous.
L'info avec vous tous les jours jusqu'à 13h.
Et elle a eu un médecin suspendu, mais qui a malgré tout décidé de reprendre le travail. Les pourboires par carte bancaire est bientôt défiscalisée. Puis on vous emmènera en Grande-Bretagne où la pénurie de chauffeurs vire à la pénurie d'essence.
Et juste après le journal, deux débats. La polémique d'abord sur le crack et ce mur érigé à Pantin, mur de la honte, disent les riverains. Que faire, quelle solution? On en débattra à 12h40 et puis à 12h50, je vous le disais. Si on prenait l'exemple sur l'Allemagne, au lendemain des législatives, pas d'invectives ni d'adversaires et pour cause, les opposants d'hier deviennent souvent partenaires de gouvernement.
Notre question du jour, justement, sur RTL.fr, doit-on faire comme en Allemagne, proportionnel et gouvernement de coalition? Les avis sont plutôt partagés. Vous dites oui à 44%, non à 41%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Ambiance bien automnale.
Hein. Ah oui, c'est vrai, avec la perturbation qui a balayé ce matin le nord-ouest, elle circule assez vite. Du coup, on la retrouve du sud-ouest au Hauts-de-France avec un ciel chargé, des pluies plus marquées sur la partie nord. Et après le passage des pluies, retour d'éclaircies sur le nord-ouest avec encore un peu de vent. Et à l'est, avant l'arrivée des pluies, un ciel voilé, sauf dans le sud-est où ça reste ensoleillé. Les températures, elles sont comprises entre 18 et 23 au nord et jusqu'à 28 au sud.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc l'histoire de ce médecin suspendu parce que non vacciné, mais qui a décidé de reprendre du service. Ce médecin, c'est le docteur Guillaume Baruc, généraliste à Biarritz. Après la grève, avec la grève d'SOS Médecins, il n'a, dit-il, pas eu le choix.
Ce matin, je me réveille avec 10 messages de patients qui ne trouvent pas de médecin, qui ont un besoin urgent de consultation. Donc moi, il n'est pas question, bien sûr, que je laisse tomber ces patients. Donc voilà, en responsabilité, je suspends pendant une journée mes vacances. Si on risque quelque chose à soigner et à rendre service ou à porter secours aux gens, bon, mais là, c'est grave. Au pire, oui, effectivement, ils ont prévu de diligenter des contrôles de l'ARS pour être sûr que donc les dizaines de milliers de soignants de France qui ne sont pas vaccinés ne travaillent pas. Donc pour revenir à la réalité, se dire voilà, si on est en urgence sanitaire ou si on est en guerre, comme on dit, on utilise toutes les forces vives. Si ça posait problème, alors là vraiment ce serait grave.
Le docteur Baruc au micro RTL de Philippe de Maria. Pour rappel, hein, ce médecin, comme tous ceux qui sont suspendus parce que non vaccinés, risque 135 € d'amende dans un premier temps, jusqu'à 3 750 € en cas de récidive. L'assurance maladie de son côté indique qu'elle ne remboursera pas ses consultations.
Dans l'actualité également, cette petite révolution au restaurant, les pourboires payés par carte bancaire vont être défiscalisés. C'est-à-dire que vous donnez 5 € et ces 5 € seront défiscalisés.
Oui, c'est ce qu'annonçait tout à l'heure Emmanuel Macron lors d'une visite au Salon international de la restauration à Lyon. Objectif, redonner de l'attractivité à un secteur en manque de bras.
C'est une mesure, je le dis très fortement, qui ne coûte rien parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc en effet, on ne va pas payer des charges et des impôts sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas versé. Si c'est versé, c'est du pouvoir d'achat en plus pour des femmes et des hommes qui travaillent et dont le client reconnaît le travail et a envie de rajouter à ce que paye l'employeur. Donc honnêtement, c'est que du positif. Et c'est ce qui va aussi vous permettre d'attirer plus de jeunes et de moins jeunes pour leur dire « tu peux gagner beaucoup plus que le salaire et le bonus que je te verse ».
Que du positif, dit le chef de l'État. Voyons ce qu'en disent les premiers concernés. Pierre Herbulot, vous êtes rendu dans le centre de Paris, dans le quartier du Châtelet.
Oui, et derrière son comptoir, c'est un grand sourire pour Étienne Jojo, le patron du Louchebem. Jusqu'ici, chaque pourboire laissé en carte bleue lui coûtait un peu d'argent. Il songeait même à les refuser.
Ah, pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que nous prenons ici depuis des années le pourboire en carte bleue. Moi, j'ai pris en charge la fiscalisation, mais je vous avoue que les temps sont durs. Depuis 2 ans avec le confinement, ça a été un petit peu difficile. Mais là, c'est une excellente nouvelle pour nous.
Mais ça, c'est pour les patrons qui jouaient le jeu. La plupart s'arrangeaient déjà pour récupérer le trop perçu en liquide dans leur caisse. La mesure rend finalement légale ce qui était toléré. Non, le problème, c'est plutôt que les clients ne laissent pas grand-chose pour Samy. Aujourd'hui, le pourboire représente pour ce serveur les bons mois 10% de son salaire. La faute à la généralisation des paiements par carte bancaire, dit-il.
Avant, c'était beaucoup plus. Avant, double ou triple. Maintenant, en carte bleue, on paye vraiment le pile-poil. Si c'est 21,40 €, ça va être 21,40 € et voilà.
La carte bleue, c'est 8 paiements sur 10. Aujourd'hui, dans le troquet voisin, le patron balaie le sujet d'un revers de main. Espèce, carte, défiscalisation, c'est la qualité du service qui incite les clients à être généreux, pas les annonces du président.
Reportage signé Pierre Herbulot pour RTL. Cette annonce, vous le disiez, Emmanuel Macron l'a faite depuis Lyon, où il est en déplacement. Le chef de l'État qui a bien failli recevoir un œuf, Vincent de Rosier, vous êtes sur place pour RTL, que s'est-il passé ?
Alors, le président était en train de faire son petit tour des exposants lorsque cet œuf a été lancé. Il a d'ailleurs légèrement touché l'épaule du chef de l'État avant de s'écraser au sol. Alors, de ce que j'ai pu voir, il s'agit d'un homme jeune, bermuda jaune, polo bleu marine. Il semblerait qu'il ait été signalé par les renseignements territoriaux, mais cette information doit encore être confirmée. Il a été immédiatement interpellé de manière assez musclée par la sécurité du chef de l'État, puis menotté derrière une porte. Et Emmanuel Macron a demandé à lui parler, s'il a des choses à dire, qu'il vienne, a dit le président. Pour l'instant, la rencontre n'a pas eu lieu.
Vincent de Rosier, en direct depuis Lyon pour RTL.
Éric Dupond-Moretti était, lui, ce matin, l'invité d'RTL.
Le garde des Sceaux a présenté l'avertissement pénal probatoire, une peine censée remplacer le rappel à la loi.
Ça ne fait pas rigoler les gens honnêtes, qui sont attentifs au rappel à la loi, mais les autres, ils disent même pas mal. Donc on a souhaité évidemment supprimer ce rappel à la loi et qui était devenu totalement obsolète parce que ça générait au fond un sentiment d'impunité insupportable et puis une grande frustration chez les policiers, chez les magistrats qui avaient le sentiment de bosser pour rien.
Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, invité tout à l'heure d'Alba Ventura sur RTL. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Au-delà du nom, qu'est-ce qui va changer ?
Eh bien cet avertissement pénal prévoit une sorte de sursis probatoire. Concrètement, si un individu commet une infraction de faible gravité, comme un tag dans l'espace public hein, par exemple, alors son avertissement lui est notifié et si dans l'année qui suit il réitère, le procureur sera alors obligé de poursuivre les deux infractions. On parle bien d'obligation, tandis que le rappel à la loi, tel qu'il existe aujourd'hui, permet aux magistrats de poursuivre les deux infractions, mais rien ne l'y oblige. Et dans la majorité des cas, précise le ministère de la Justice, il est très rare qu'un procureur le fasse. L'autre évolution, c'est que l'avertissement pénal sera exclusivement délivré par des procureurs ou des délégués de procureurs, contrairement au rappel à la loi qui était majoritairement délivré par des officiers de police judiciaire, mais déjà, les syndicats de magistrats craignent de crouler sous les procédures pour sanctionner des infractions de faible gravité.
Et justement, écoutez la réaction de Sophie Legrand, elle est secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
On est encore sur des annonces de pure communication, je ne sais pas si c'est à des fins électorales ou à des fins de réponse à une certaine colère des policiers, mais en y répondant totalement à côté. C'est des annonces qui vont avoir des conséquences sur les juridictions. On va engorger les juridictions avec la répression de faits de très faible gravité, qui avant la création du rappel à la loi n'étaient pas poursuivis d'ailleurs, alors que les juridictions peinent déjà à effectuer le travail qu'elles ont à réaliser et qu'il y a des attentes fortes sur d'autres types d'infractions qui sont beaucoup plus graves aux yeux de la société.
Sophie Legrand, la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, joint pour RTL par Alice Moreno. Merci à vous. Alice, le nombre de chômeurs lui continue de baisser, moins 1,4% mois d'août si l'on prend les demandeurs d'emploi de la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout travaillé. 51 300 précisément, de moins selon les chiffres du ministère du Travail publiés ce matin. En Allemagne, au lendemain des législatives, on ne sait toujours pas qui succédera Angela Merkel. Les sociaux-démocrates du SPD sont arrivés légèrement en tête, mais le jeu des coalitions pourrait permettre aux conservateurs de la CDU de gouverner. Les négociations commençaient dès ce matin, mais pourraient prendre des semaines.
Et ce sera notre débat tout à l'heure. On parlera de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut qu'on s'inspire du modèle allemand ?
En Grande-Bretagne, la pénurie de chauffeurs est en train de se transformer en pénurie d'essence. Pour faire face, Boris Johnson accepte finalement de délivrer 5000 visas d'urgence. Mais ça ne suffira sans doute pas, Marie Billon.
Et non, parce que l'industrie estime qu'il manque 100 000 chauffeurs routiers, mais les besoins, c'est maintenant. Des files d'attente étaient en train de se former ce matin sur les autoroutes autour de Londres, car les automobilistes ont du mal à trouver de l'essence dans la capitale. Par exemple, dans le quartier résidentiel de Bermondsey, dans le sud-est, toutes les stations essence étaient fermées. Ce matin, les pompes étaient à sec. Brian Maderson est le directeur de l'association des détaillants du carburant. Il parlait à la BBC.
Les stations essence reçoivent du carburant en ce moment, mais par exemple, l'un de nos membres a reçu une livraison hier midi et en fin d'après-midi, tout était parti.
Alors, outre les visas, le gouvernement a aussi suspendu les règles de la concurrence dans les endroits les plus touchés, pour que les stations aient accès à plusieurs fournisseurs. Le gouvernement réfléchissait ce matin aussi à faire intervenir l'armée, demander à des soldats de venir conduire des camions-citernes. Mais un ministre vient tout juste de dire que cette solution n'était pas encore à l'ordre du jour.
Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres. Montluçon a le sourire après le sacre de Julien Alaphilippe. C'est là que celui qui est désormais double champion du monde a commencé le vélo. Jean-Philippe Duraca, a été son tout premier entraîneur. Juju, comme il l'appelle, avait alors 10 ans.
J'ai écrasé une petite larme parce que c'était trop beau. Notre Juju, le Juju de Montluçon, qui était encore une deuxième fois champion du monde, c'est même plus qu'un rêve. C'est magnifique. Magnifique. Il n'y a pas de mots. Pour moi, c'est toujours le gamin de l'école du cyclisme. Mais quand je le vois comme hier à la télé, mais c'est pas possible, c'est pas mon Juju. Quoi. Et c'est vrai que j'arrive pas encore à réaliser le chemin qu'il a parcouru. C'est énorme.
Le tout premier entraîneur de Julien Alaphilippe au micro RTL de Guillaume Frixion. Alaphilippe, deux fois champion du monde donc. En revanche, pour l'instant, le Tour de France lui échappe. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour.
Comment ça s'explique? Est-ce possible de le voir un jour triompher sur les Champs-Élysées?
Ce n'est pas farfelu ou impossible, mais c'est vrai qu'il reste de la route, du chemin à faire. Il ne s'est pas lancé dans cette opération encore. Il veut continuer à gagner d'abord ses classiques, ses courses d'un jour où il excelle, où il fait partie des trois meilleurs mondiaux avec ses qualités de puncher, gonfler encore son palmarès. Certaines se refusent à lui. Pour le moment, le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège. Alors basculer sur l'objectif Tour de France, ça demandera un ensemble de conditions. Changer sa façon de courir, modifier radicalement son entraînement, avoir un parcours qui lui convienne également et que son équipe belge accepte de tout miser sur lui, ce n'est pas garanti. Et le Tour, c'est 3 semaines de concentration intense. Alaphilippe continue de courir à l'instinct. Il a 29 ans, il lui reste 5-6 saisons à exploiter, mais il ne s'interdit rien. L'idée est moins saugrenue qu'auparavant. 6 étapes gagnées, 18 jours en jaune. Il sait qu'il a un lien spécial avec le Tour de France.
Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL.
La polémique dans une seconde sur le crack et ce mur érigé à Pantin. À Paris, mur de la honte, disent les riverains. Que faire? Quelle solution? On a déplacé le problème des jardins du haut des halls jusqu'à Pantin. Et puis à 12h50, on parlera de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut prendre un exemple sur l'Allemagne? A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Ils ont mis le mur de Pantin, le mur de la honte, on appelle ça comme on veut. Donc la misère sur la misère. Quand ils sont au Monk, on sait ce que ça a donné dans le 18e. Ces mecs-là, ils vont faire quoi? Quand ils sont au Monk, quand ils veulent boire, veulent manger, ils sont obligés de venir ici.
C'était ce matin sur RTL l'inquiétude de ce patron de bar de Pantin après l'évacuation des toxicomanes des jardins d'Éole à Paris. Le mur construit vendredi pour les empêcher de passer ne règle rien, au contraire.
Certains toxicomanes contournent déjà le mur qui doit les contenir et se retrouvent dans une rue commerçante.
Nos enfants ne voudront plus passer par là.
Sarah a donc imprimé des tracts non au crack, elle habite près du square.
Il y a eu des agressions déjà depuis vendredi. Déjà que nous avons des problèmes, on nous en apporte un autre. Et pourquoi Pantin?
Alors que faire? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Bertrand Kern.
Bonjour.
Vous êtes le maire PS de Pantin, justement. On a entendu cette riveraine à l'instant évoquer des agressions au micro-RTL de Valentin Boissé. Est-ce que c'est le cas depuis vendredi, depuis la construction de ce fameux mur?
Oui, j'étais présent hier après-midi, en fin d'après-midi, sur le quartier pour voir un petit peu comment les choses se passaient. Et j'ai rencontré effectivement une riveraine qui avait été l'objet d'une agression.
Est-ce que vous avez une idée précise, Monsieur Kern, du nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans la ville de Pantin, les toxicomanes? C'est 500 personnes? C'est 1000 personnes?
Non, aujourd'hui, ce qu'on nous annonce sur le campement, c'est entre 130 et 150 personnes. Le problème, c'est qu'il en arrive un peu tous les jours. Et ma crainte, ma grande crainte, c'est qu'on retrouve la colline du crack que nous avions porte de la Chapelle il y a quelques années. Et mon autre crainte, c'est la sécurité des riverains, mais aussi des craqueurs, parce que vous savez, à un moment ou à un autre, la population, quand elle est excédée, il peut y avoir des débordements.
C'est-à-dire que l'État français ne sait pas trouver une solution pour 150 ou 200 personnes, les mettre dans un endroit où ils puissent se soigner pendant un temps donné. L'État français qui impose un pass sanitaire et qui impose pour boire un café en terrasse d'avoir un pass sanitaire ne sait pas régler ce problème, l'a déplacé du jardin des Halles jusqu'à Pantin.
Oui,
c'est ça.
Ça fait 20 ans.
C'est la France d'aujourd'hui.
Malheureusement, ça fait 20 ans que ça dure. Il faut savoir que lorsque des majeurs errent sur la voie publique avec des troubles médicaux, psychiatriques, psychomotriques, ça relève de l'hébergement d'urgence et c'est une compétence État. Et je pense qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps et il faut créer des centres d'accueil pour une prise en charge sanitaire, médico-sociale de ces personnes. Autrement, on déplace le problème, on ne le règle pas et derrière... Bah vous rajoutez de la souffrance à la souffrance dans un quartier comme celui des Quatre Chemins, qui est un quartier qui, aujourd'hui, bénéficie de tous les dispositifs de l'État dans le cadre des quartiers populaires et des quartiers compliqués et difficiles.
Bertrand Kern, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, était ce matin l'invité d'RTL et il a promis des solutions pour les jours qui viennent. On l'écoute et vous lui répondrez après.
C'est une solution forcément transitoire, ça ne peut satisfaire personne.
Le mur de la honte, disent les
habitants. Il y a deux problèmes. L'addiction au crack est tellement forte que vous avez des gens qui sont en danger de mort, et très très rapidement. Puis vous avez toutes les nuisances pour le voisinage. Moi je me mets à la place de celui qui a acheté un appartement dans un quartier, qui est envahi par des craqueux. Et on est là dans une espèce de d'urgence. Et il faut répondre pour le moment dans l'urgence. Et moi, j'y répondrai de façon plus précise dans les jours qui viennent. C'est ce que je viens de vous dire.
On vous attend dans le studio.
Bertrand Kern, vous répondez des quoi au garde des Sceaux qui promet donc des solutions pour les prochains jours? Qu'est-ce que vous lui diriez?
Ben moi, ce que je lui dis d'abord, je lui dis bravo pour vous rendre compte de ce que vont vivre les habitants de ma commune. Parce que ce qu'il dit, ni plus ni moins, c'est que la présence de ces craqueurs va, dans un premier temps, ça risque d'être l'enfer aux Quatre Chemins. Et on voit qu'ils commencent à arriver, ils commencent à investir les espaces publics. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de prendre ce problème par le biais de la sécurité. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui doit régler ce problème. C'est au niveau du Premier ministre et du ministre de la Santé. Il doit y avoir un capitaine qui nous dise, voilà, on a un problème avec les craqueurs en France depuis plusieurs années. Et maintenant, on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de mettre en place un centre d'accueil qui fasse une réponse sanitaire, médical et social à ce problème.
Merci Monsieur Kern, mais ce qui n'est pas audible, me semble-t-il surtout, c'est que ce n'est pas du tout un problème d'urgence, ça fait des mois que ça dure. Donc lorsque Monsieur Dupond-Moretti dit que c'est une solution transitoire, ça fait des mois et c'était sur le jardin d'Éole. Donc ça fait des mois que l'État français ne peut pas régler ce problème. Merci Monsieur Kern, vous êtes le maire de Pantin, je le rappelle, il est 12h49, on va parler de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut s'inspirer du modèle allemand? Tout va bien en Allemagne, les gens sont gentils, ils se parlent bien, il n'y a pas de problème, c'est la proportionnelle. Tout le monde s'aime, tout le monde travaille ensemble et tout le monde gouverne ensemble. Là, tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Vers un long bras de fer en Allemagne après la victoire ultra serrée cette nuit des sociaux-démocrates, il faut désormais négocier la future place de chancelier.
Après le vote, la négociation, c'est la règle à chaque fois ou presque en Allemagne au lendemain des élections législatives. Un modèle qui tranche avec ce qui se passe ici, chez nous en France. Alors doit-on s'inspirer du modèle allemand? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Avec nous, Bénédicte Tassard, l'envoyé spécial d'RTL à Berlin. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Amandine, bonjour Pascal et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL est avec nous en studio. Bénédicte, je me tourne vers vous d'abord à Berlin. La négociation en Allemagne, je le disais, c'est la règle, on se parle et on se parle correctement avant le vote, après le vote. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez nous par exemple.
Ah oui, rien. Regardez, aujourd'hui, tous les dirigeants des partis politiques sont en ce moment attablés ensemble pour parler coalition. Pas d'invectif, pas de coup bas, parce qu'on ne sait jamais avec qui on va devoir gouverner. Certains très opposés politiquement vont se retrouver dans le même gouvernement, devoir se mettre d'accord. Ce n'est pas parce que le SPD d'Olaf Scholz a fait la course en tête dans cette élection qu'Olaf Scholz sera forcément chancelier. Par exemple, en 69, en 76, en 80 aussi, la CDU est arrivée première aux législatives. Mais les chanceliers nommés ont été Willy Brandt et Helmut Schmidt. Pourquoi ? Parce que le SPD s'est allié avec la droite libérale pour former un bloc costaud.
C'est dû aussi à l'histoire de l'Allemagne, ça, Bénédicte ?
Mais oui, parce qu'à la sortie de la guerre, les alliés, ils ont réclamé un système à la proportionnelle pour éviter à nouveau qu'un homme comme Hitler gouverne seul. Plus de possibilités de totalitarisme. Les plus de 60 millions d'électeurs doivent donc voter deux fois. Une fois pour un candidat député et la deuxième fois pour un parti. Et les Allemands sont habitués à ne pas voter deux fois pour le même. Ils sont habitués à être gouvernés par des coalitions. C'est le cas du dernier gouvernement. La grande coalition, comme on l'appelait, le centre-gauche du SPD, avec le centre-droit de la CDU et de Merkel. C'est comme ça que l'on retrouvait dans le gouvernement Merkel un ministre des Finances qui n'était pas de son bord, Olaf Scholz, actuellement tête de liste du SPD et peut-être futur chancelier.
D'un mot, vous le disiez, Bénédicte, les négociations, les discussions ont déjà commencé et en fait, les partis vont se mettre d'accord sur un nouveau programme, c'est ça ?
Oui, sur un programme précis. Quelles mesures vont être prises par le futur gouvernement ? Par exemple, les Verts sont formels pour qu'ils à une coalition, il faut que soit inscrit la fin des centrales à charbon d'ici 2030. Pour que les libéraux disent oui, il faut que leurs alliés soient d'accord pour ne pas taxer davantage les plus riches des concessions. De chaque côté, tout sera écrit. Si ce n'est pas respecté, eh bien, le gouvernement de coalition peut tomber.
Marie-Dominique Allaire est avec nous dans le studio. C'est vrai que la Ve République était... je vous appelle toujours Marie-Dominique.
Oui, c'est toujours.
Jure, je vais dire Marie-Bénédicte, parce que, pardonnez-moi...
Vous savez qu'on m'appelle Marie-B, hein, ici.
Marie-Bénédicte, la Ve République est une réponse à la Quatrième. Et la Quatrième, c'était un peu ça, les coalitions possibles.
Ben, tout à fait. Et la France, contrairement à l'Allemagne, élit ses députés au scrutin majoritaire. C'est la Ve République voulue par le général de Gaulle pour dégager une majorité nette et indiscutable, parce que la 4e République, c'était le blocage permanent. Sous la 5e, le Premier ministre peut appliquer le programme du président sans passer son temps à négocier avec les différents groupes parlementaires. Alors, l'inconvénient, c'est que l'Assemblée ne représente pas la diversité du corps électoral et que ce système a tendance à donner une surreprésentation à la majorité par rapport à son poids réel en voix et qu'il défavorise les autres sensibilités politiques. Par exemple, Marine Le Pen, elle est arrivée au second tour de la présidentielle en 2017. Mais il y a seulement une poignée de députés RN qui sont parvenus à se faire élire. A contrario, le Parti communiste, qui est beaucoup moins important maintenant au niveau du nombre de voix, parce qu'il a passé des accords avec d'autres partis de gauche, a sauvé suffisamment de sièges pour former un groupe parlementaire.
Mais alors on parle souvent de la proportionnelle et Emmanuel Macron d'ailleurs l'avait promis, en tout cas d'en mettre en partie.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, François Bayrou lui-même avait conditionné son soutien à Emmanuel Macron à l'introduction de la proportionnelle. Et aujourd'hui, les différents groupes centristes, les écologistes, les insoumis réclament la proportionnelle. Mais en réalité, le scrutin majoritaire convient très bien à Emmanuel Macron, comme avant lui à François Hollande, qu'il avait pourtant promis aux écologistes. Alors, ça n'empêche pas parfois que des députés de la majorité se rebellent. Hein. François Hollande a eu les frondeurs, on s'en souvient. Et le groupe des députés de la République En Marche, la majorité actuelle, a fondu en 4 ans. Il a perdu 45 députés et donc la majorité absolue et doit maintenant être plus conciliant avec son allié le Modem. Alors, ce qui a bloqué, d'abord, c'est le peu d'entrain du président Macron. Et puis, c'est aussi que personne dans la majorité n'était d'accord sur le système de proportionnel à mettre en place, sur la dose de proportionnel, et qu'il y a eu un concours Lépine de projets, tous plus compliqués à comprendre les uns que les autres. Et comme on ne peut pas changer le mode de scrutin moins d'un an avant les législatives suivantes, en juin dernier, on est arrivé à la conclusion que ça ne bougerait pas, en tout cas pas avant la prochaine présidentielle.
Sous la Ve République, il n'y a qu'une fois où le scrutin proportionnel a été adopté, c'était en 86.
Oui, sous François Mitterrand.
Exactement, et c'était pour contrer l'offensive de la droite. La victoire de la droite avait été moins importante que prévu parce que le scrutin majoritaire, pour les raisons que vous avez dit, donne toujours un avantage au parti qui est en tête.
Oui, à ce moment-là, il y a eu un groupe de députés Front National.
Exactement,
qui est entré à
Jean-Marie
l'Assemblée.
Jean-Marie Le Pen, qui était là. Je crois qu'il y avait une trentaine de députés.
Absolument.
D'ailleurs cette année-là. C'était il y a 35 ans. Merci Marie-Bénédicte Allaire.
Et on remercie Bénédicte Tassard
Bénédicte...
qui était en direct de Berlin avec nous.
Exactement. Et mais alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai entendu dire que Mme Merkel pourrait rester en place.
Oui, en attendant.
Madame Merkel va rester en place en attendant qu'il y ait un nouveau gouvernement. Ah ben ça peut aller, on le disait, ça peut aller jusqu'à Noël.
Oui, c'est ça qui est incroyable.
La durée moyenne des négociations, c'est 47 jours, si on regarde toute l'histoire de l'Allemagne.
Bon.
Donc là, ça, c'est une moyenne, 47 jours. La dernière fois, ça a duré plus de 5 mois.
On ne se met pas d'accord très vite, quand même. Merci.
On dit qu'elle prépare déjà son discours du 1er janvier.
Merci beaucoup. Il est 12h58. Merci à Amandine qu'on va retrouver pour le Flash. Et puis nous, on aura plein de thèmes, bien évidemment, avec les auditeurs dans une seconde. RTL.